Deutsche Welle. Magazine Santé.
On est dans le surpoids quand l'indice se situe entre 25 et 30 et on rentre dans l'obésité au-dessus de 30.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids et l'obésité représentent une menace grandissante pour la santé des populations dans un nombre croissant de pays, à tel point que l'on parle désormais d'une véritable épidémie. Nous verrons pourquoi dans ce magazine qui se penchera également sur la délicate question des allergies alimentaires. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Hypertension et accidents cérébrovasculaires, certains types de cancers, diabète, arthrose, et goutte, maladies pulmonaires, y compris l'apnée du sommeil. La liste des problèmes de santé en lien avec l'obésité ou le surpoids est longue et cela ne concerne pas que les adultes. En 2016, l'OMS estimait qu'environ 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient touchés par le surpoids ou l'obésité et donc exposés à plusieurs maladies, voire à des décès prématurés. Sans traitement efficace, ils risquent de demeurer en situation de surpoids et d'obésité tout au long de leur vie et de souffrir des conséquences physiques mais aussi psychologiques de cette situation. Depuis 1997, l'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie chronique et l'a définie comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. C'est ce que nous explique un nutritionniste, le docteur Jean-Philippe Zermati du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids.
En consultation, ce qu'on rencontre le plus fréquemment, ce sont en fait des obésités aggravées, tout simplement par des régimes et des comportements de restriction. Et ce sont des obésités aussi qui sont liées à des troubles alimentaires liés à de l'alimentation émotionnelle.
Concrètement, à partir de quand on peut considérer une personne comme étant obèse ?
On fait un calcul qui est très simple de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle et qui consiste à diviser le poids de la personne par sa taille au carré. Ça donne un indice qui ne doit pas être supérieur à 30. À partir de 30, on rentre dans l'obésité. Toujours à partir de cet indice de masse corporelle, on est dans le surpoids quand l'indice se situe entre 25 et 30 et on rentre dans l'obésité au-dessus de 30.
Un mot sur la prévention. La prévention de l'obésité est devenue un problème de santé publique dans les pays développés, mais également ceux en développement. Il y a actuellement beaucoup de sensibilisation autour du sujet. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le message passe ?
Ah, le message passe très bien. Il n'y a aucun souci sur le message. Il passe parfaitement bien. Le problème, c'est qu'il n'empêche rien, le message. Par exemple, on a un plan de nutrition et santé qui délivre un certain nombre de messages, comme manger 5 fruits et légumes, manger moins gras, manger moins sucré, manger moins salé, faire de l'activité physique, etc. Donc, en fait, quand on mesure la notoriété des messages, on s'aperçoit que ces messages, ils ont un taux de pénétration dans la population au-dessus de 95%. Ça veut dire que pratiquement tout le monde est informé. Et donc, ces messages, on constate évidemment qu'ils ne freinent absolument pas l'augmentation de l'obésité, dans aucun pays d'ailleurs. On est dans des comportements qui sont presque des comportements un peu addictifs, liés à des surconsommations alimentaires qui sont liées à une absence d'attention sur l'acte alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus souvent des gens qui mangent en faisant tout à fait autre chose, il y a une sorte de dispersion de l'attention, donc tout ça va entraîner des surconsommations qui ne sont pas freinées par l'information ou par la connaissance d'un message.
Et vous estimez qu'il faut mettre quand même l'accent sur la prévention ?
Ah oui, absolument. Cette prévention-là, elle ne fonctionne pas. Non seulement les gens sont informés de ce qu'il faut faire, mais en plus ils font ce qu'on leur demande de faire. Donc on a par exemple une diminution de la consommation de gras dans un certain nombre de pays. On a une diminution de la consommation de sucre aussi dans quelques autres pays. Parallèlement, il y a toujours une croissance de l'obésité.
Et qu'est-ce qu'il faut alors ? Puisqu'il y a un paradoxe quand même.
Il y a peut-être un paradoxe ou il y a peut-être une mauvaise analyse des causes de l'obésité. L'obésité déjà, elle est simplement liée à une surconsommation. Donc si le message était tout simplement « manger moins », il serait probablement plus pertinent que s'il était « manger moins gras » ou « manger moins sucré ». On sait que l'obésité n'est pas liée à la surconsommation d'un nutriment spécifiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié spécifiquement à la surconsommation de gras ou à la surconsommation de sucre. Il est lié à une surconsommation globale en calories.
Un mot sur l'obésité hein, chez les enfants, puisqu'ils sont également de plus en plus concernés.
L'obésité va diminuer l'espérance de vie, c'est-à-dire que plus l'obésité est importante, et plus un impact l'espérance de vie. Il faut rentrer dans l'obésité et pas dans le simple surpoids.
Certains optent pour de la chirurgie pour éviter de prendre du poids. C'est une méthode qui n'est pas sans danger ?
La chirurgie n'est pas une méthode préventive. C'est fait une fois que l'obésité est constituée. Et normalement, on ne l'utilise que dans ce qu'on appelle des obésités massives, c'est-à-dire pour des indices de masse corporelle qui sont supérieurs même à 40 ou à 35 avec des complications médicales. Même cette méthode-là peut avoir des échecs si les gens y retrouvent, après l'intervention, les troubles alimentaires qui étaient à l'origine de leur prise de poids.
Quelles sont les autres méthodes généralement conseillées pour éviter de la prise de poids ?
Ce sont essentiellement des méthodes comportementales qui agissent sur le comportement et qui permettent de réduire les surconsommations, c'est-à-dire de manger moins, d'agir sur le comportement alimentaire, sur les processus qui contrôlent le comportement alimentaire, de travailler sur les sensations de faim, de rassasiement, sur les envies de manger émotionnelles. Et c'est ça probablement qui a le plus d'effet, beaucoup plus que des messages d'information nutritionnelle.
Quand on parle d'obésité ou de surpoids, généralement le lien avec la nourriture est vite fait. Ce qui nous amène au second sujet de ce magazine, l'allergie alimentaire. Des scientifiques britanniques ont développé un test sanguin beaucoup plus précis pour diagnostiquer l'allergie aux arachides, ce qui permet ainsi de mieux surveiller un risque alimentaire important. L'arachide est en effet la cause la plus fréquente d'une réaction allergique grave aiguë qui peut causer la mort. Ces dernières années, on a observé une augmentation des cas d'allergie chez les enfants. L'Agence britannique de l'alimentation estime même que jusqu'à un enfant sur 55 souffre d'une allergie à l'arachide. Les tests utilisés jusqu'à présent sont basés sur la recherche d'anticorps, mais ils ne peuvent pas faire la différence entre la sensibilité et l'allergie alimentaire réelle. En conséquence, les médecins doivent souvent effectuer une autre série de tests dans un hôpital en administrant aux patients des doses croissantes d'arachides pour confirmer leur allergie. Un processus qui peut déclencher lui-même un choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique grave aiguë qui peut causer la mort. Ce procédé nécessite la présence d'un allergologue et d'infirmières spécialisées et est onéreux. Le nouveau test sanguin serait 5 fois moins cher. Le docteur Alexandra Santos est allergologue pédiatrique du King College de Londres. Selon elle, le nouveau test permettrait non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire de 2/3 le nombre de problèmes alimentaires oraux stressants. Elle explique que le développement du nouveau test suit les progrès de la science qui permettent la détection de signaux biologiques à partir de beaucoup plus de petits échantillons de sang que par le passé.
Il y avait quelques patients qui avaient réagi de manière inattendue avec des réactions assez sévères, ce qui peut arriver. Donc nous devons être prêts à traiter n'importe quel type de réaction allergique dans n'importe quel test alimentaire. Nous avons vraiment besoin de trouver de meilleurs moyens. Nous devons trouver de meilleurs tests pour diagnostiquer les allergies alimentaires.
Contrairement aux tests sanguins et à d'autres tests qui produisent un grand nombre de faux positifs, le nouveau diagnostic a une précision de 98% selon ses concepteurs. Il se concentre donc désormais sur les mastocytes, des cellules présentes dans les tissus conjonctifs, faisant partie des globules blancs et qui jouent un rôle essentiel dans le déclenchement de symptômes allergiques, tels que les réactions cutanées ou la constriction des voies respiratoires.
Avec les tests d'allergie actuels, si nous testons des enfants au hasard dans la population, une fois sur 5, on se retrouvera avec un test positif d'allergie alimentaire. Avec ces nouveaux tests, le résultat sera positif si seulement les enfants sont vraiment allergiques. Le test permet de détecter les allergies virtuelles. C'est plus précis.
L'équipe de recherche souhaite désormais adapter le test à d'autres aliments tels que le lait, les œufs, le sésame et les noix. Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé pour les allergies aux arachides, bien que deux sociétés de biotechnologie travaillent à développer des traitements concurrents. Le docteur Alexandra Santos estime que le nouveau test sanguin pourrait jouer un rôle dans la surveillance de la réponse des patients à de tels médicaments. La technologie a évolué et maintenant nous avons de meilleures façons de regarder les cellules immunitaires et de voir comment elles réagissent, précise la chercheuse. Et c'est sur cette note d'espoir que prend fin ce magazine. Merci pour l'écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.
Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich gehe. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und male zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Selbst der Staub auf deiner Jeans hat das Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr vor. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich